Voyons maintenant l'action 2 qui est déterminer les modalités d'action. Définissons d'abord le terme de modalité d'action. Il s'agit pour une tâche donnée de la manière dont la personne va accomplir cette tâche, donc des moyens qu'elle va utiliser pour atteindre l'objectif. En clair, c'est comment elle va s'y prendre. Or, ce que je constate, c'est que souvent le manager se contente d'une définition des objectifs plus ou moins précise et laisse ses modalités d'action à la discrétion de son collaborateur. Or, de mon point de vue, le manager doit savoir de façon précise les modalités que va utiliser son collaborateur. Et, sauf cas très particulier, il ne doit pas les découvrir alors qu'elles ont déjà été mises en œuvre. Je considère que cette démarche serait imprudente pour lui, pour le collaborateur et pour la structure. Voici maintenant un élément complémentaire et très important à l'action 2. Vous avez défini les objectifs généraux, avec votre collaborateur vous les avez déclinés en objectifs spécifiques et vous êtes maintenant d'accord avec lui sur comment il va s'y prendre, quelle modalité, quel mode opératoire il va utiliser. Vous avez maintenant à valider avec lui son engagement. Et votre collaborateur doit prendre trois engagements. Le premier engagement, c'est l'engagement de respecter les objectifs spécifiques. Le deuxième, c'est l'engagement de mettre en œuvre les modalités d'action telles qu'elles ont été définies. Et le troisième engagement, c'est de respecter la règle de réactivité. Alors, je vais vous détailler ce qu'est pour moi la règle de réactivité. Voyons d'abord quand la règle de réactivité doit être actionnée. Elle doit l'être chaque fois que la personne est face à une situation qui risque de l'empêcher de respecter l'un des termes de l'engagement qu'elle a pris envers une autre personne. Un exemple, je dois finir un rapport et le remettre à midi à ma secrétaire pour qu'elle le tape, afin qu'il soit terminé en fin d'après-midi. Si à 10h mon patron m'appelle et me demande de l'accompagner dans un rendez-vous immédiatement, il y a une forte probabilité que je ne sois pas en mesure de respecter l'engagement que j'ai pris auprès de ma secrétaire. Un deuxième exemple, je me suis engagé à préparer une présentation que je dois faire en réunion de service, par exemple la présentation d'un nouveau logiciel de gestion de courrier électronique. Et en creusant le fonctionnement de ce logiciel, je m'aperçois qu'il est plus complexe que je pensais et que je risque de ne pas maîtriser suffisamment ce logiciel pour faire une présentation utile. Donc là, apparaît un élément qui me fait penser que je ne serai pas en mesure de tenir tout ou partie de l'engagement que j'ai pris. Donc à ce moment, je dois actionner la règle de réactivité. Il s'agit d'informer immédiatement la personne concernée, le client entre guillemets, la personne pour laquelle je me suis engagé. Je dois l'informer de la situation, d'une part, et je dois aussi lui donner des éléments d'options possibles pour traiter le problème. Dans cette situation, nous avons donc deux interlocuteurs. Un premier interlocuteur que j'appelle entre guillemets le fournisseur, donc c'est la personne qui s'est engagée à une action, et la deuxième sur laquelle je mets aussi des guillemets que j'appelle le client. Donc c'est la personne qui est destinataire du résultat de l'action. Et dans la règle de réactivité, chacune des deux personnes a un rôle à jouer. Alors voyons d'abord le rôle du fournisseur. Ce que je disais précédemment, le fournisseur doit informer son client. Il doit donc d'abord lui communiquer les éléments de la réalité qu'il vient de découvrir. Par exemple, une autre demande prioritaire d'un autre client, ou par exemple une information dont il a besoin pour faire le travail et qu'il ne peut pas obtenir à temps. La deuxième chose que doit faire le fournisseur, c'est expliquer à son client en quoi ce nouvel élément de la réalité risque de l'empêcher de tenir son engagement. Par exemple, il ne voit pas comment il peut assurer les deux demandes simultanément. Et la troisième chose, le fournisseur doit proposer à son client des options. Et j'insiste sur ce troisième élément, qui pour moi est important, c'est que le fournisseur ne doit pas simplement faire état des difficultés. Il doit au préalable réfléchir à des options de solutions possibles au problème et les proposer au client. Sinon, il est dans c'est plus mon problème, ça devient le vôtre. C'est-à-dire, bon, j'y arriverai pas, maintenant à vous de vous débrouiller. Et dans ce cas-là, il ne joue pas pleinement son rôle de fournisseur. Voyons maintenant le rôle du client. La première chose que doit faire le client, c'est entendre les informations données par son fournisseur. Et là, il y a une tentation pour le client de réagir en indiquant à son fournisseur que c'est son problème et qu'il lui appartient de trouver des solutions. Et c'est un fonctionnement qui s'apparente encore une fois au yaka. C'est-à-dire, vous n'avez qu'à vous débrouiller, c'est votre problème. Et cette réaction me paraît inadaptée parce qu'elle est incohérente. Parce que ça conduit le client à nier la réalité. En effet, si le fournisseur ne parvient pas à faire le travail dont le client a besoin, c'est pas uniquement le problème du fournisseur, ça devient à l'évidence aussi le problème du client. Donc dire c'est pas mon problème, c'est une méconnaissance grave de la réalité. Il y a un autre risque à ce fonctionnement, c'est que en cherchant à gérer au mieux les difficultés qu'il rencontre et en le laissant faire tout seul, le fournisseur peut choisir une option qui ne convient pas au client. Je vous donne un exemple. Je demande à mon adjoint de faire deux tâches. La première, c'est faire l'état des heures de travail réalisées par chaque membre de l'équipe depuis le début de l'année. Et une deuxième tâche, pour chaque personne, calculer le nombre d'heures de travail encore disponibles d'ici la fin de l'année, sans qu'on ait à utiliser les heures supplémentaires. J'ai besoin de ces informations pour une réunion de chef de service qui a lieu en fin d'après-midi. Et mon adjoint m'informe, courant de matinée, qu'il ne peut pas me donner ces éléments pour cette échéance. Si je lui dis de se débrouiller, il risque par exemple de choisir de ne faire que la première tâche pour l'ensemble des membres de l'équipe. Il va se débrouiller à faire une partie, le plus qu'il pourra. Or, il aurait peut-être été préférable pour moi que j'aie les deux tâches faites, mais uniquement sur certains membres de l'équipe. Si je ne lui donne pas ces indications en ne négociant pas avec lui de nouveaux engagements, et que je lui dis simplement « débrouillez-vous », le risque, c'est que j'ai, au moment de la réunion, des informations qui sont inexploitables. Et de plus, mon adjoint, lui, se sera beaucoup investi pour faire du mieux qu'il peut. Et ce qu'il aura en retour, c'est l'expression de mon insatisfaction. Et là, il y a un risque que ce comportement affecte de façon durable la motivation de mon collaborateur et sa confiance en moi. Alors maintenant, voyons qui doit respecter la règle de réactivité. Ma réponse est claire, tout le monde. D'abord, chaque collaborateur. Ça veut donc dire que lorsque vous demandez à l'un de vos collaborateurs d'effectuer une tâche, vous devez vérifier avec lui qu'il prend l'engagement de faire ce travail, mais aussi qu'il prend simultanément l'engagement de respecter la règle de réactivité. Donc, à l'évidence, vous devez au préalable lui avoir présenté de façon claire et précise l'ensemble des éléments de fonctionnement de cette règle. Et vous devez l'informer qu'il sera évalué non seulement sur la façon dont il remplit ses missions, mais aussi sur son respect de la règle de réactivité. La deuxième personne qui doit respecter cette règle, c'est vous-même, en tant que manager. Ça me paraît absolument impératif que vous soyez attentif à la respecter, parce que c'est pour moi la manifestation de la cohérence la plus élémentaire. Sinon, vous êtes dans « faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais ». Et là, vous perdez votre crédit. Parce que le crédit, il est associé à la cohérence. Troisième type de personnes, ce sont vos collègues, donc qui sont placés au même niveau hiérarchique que vous. Donc, de la même façon qu'avec un collaborateur, lorsque vous demandez à un collègue de travail d'accomplir une tâche pour vous, vous devez lui demander son accord, à la fois sur la tâche, ses modalités de réalisation et aussi sur le respect de la règle de réactivité. Donc, c'est s'il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir tenir votre engagement, ma demande c'est que dès que vous en êtes informé, vous m'appeliez et que nous voyons ensemble comment nous pouvons faire. Une autre personne, c'est votre supérieur hiérarchique. De mon point de vue, techniquement, la démarche est exactement la même. Par contre, surtout si ça ne correspond pas à son fonctionnement actuel, vous avez un certain nombre de précautions à prendre et vous devez adopter une stratégie spécifique pour progressivement accompagner votre patron à s'améliorer dans ce domaine. Vous ne pouvez pas le convoquer, vous ne pouvez pas l'envoyer en formation et vous ne pouvez pas lui adresser une note de service lui rappelant qu'il est tenu impérativement de respecter la règle de réactivité. Vous avez plutôt à lui l'expliquer et à lui donner des éléments lui permettant de se convaincre qu'effectivement c'est une règle qu'il doit s'appliquer parce que c'est une règle qui est bénéfique pour le fonctionnement général du service dont il a la charge. Donc vous faites œuvre pédagogique. Et c'est clair qu'il faut parfois patience et détermination. Et le dernier type de personne, c'est ce que j'appelle les clients extérieurs. Ça peut être extérieur à l'équipe, mais intérieur à la structure, par exemple quelqu'un d'un autre service. Et ça peut être aussi une personne, un représentant d'une organisation, qui est extérieur à la structure, un client externe. J'insiste à nouveau une dernière fois sur l'importance pour moi de la règle de réactivité, parce que le constat que j'ai fait à de nombreuses reprises, c'est que le non-respect de cette règle est le fonctionnement le plus fréquent dans les organisations, d'une part. Il est souvent présent à tous les niveaux de la hiérarchie, et c'est l'un des facteurs les plus importants d'erreurs, de gaspillage d'énergie, de travail qui est fait systématiquement dans l'urgence, et du coup de conflits entre les personnes, et en conclusion finale, de génération de stress. Donc je vous conseille vivement de ne pas rater une occasion de promouvoir cette règle au sein de votre structure. Et la meilleure façon de promouvoir, c'est par l'exemple. Donc la première chose que je vous suggère, c'est de voir comment vous pouvez l'appliquer vous-même à votre propre fonctionnement lorsque vous êtes client et aussi lorsque vous êtes fournisseur.